Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai eu l'occasion récemment de lire ce livre que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, « Changer vraiment comment ?». J'ai beaucoup été encouragé personnellement dans la lecture de ce livre parce que ça parle du thème du changement et ça parle de rien d'autre que de ce programme que Dieu a pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Dieu est en train de transformer nos vies pour nous rendre semblables de plus en plus à Jésus-Christ. Et il fait ça dans la vie de chaque personne qui a placé sa foi, sa confiance en lui. Nous sommes tous préoccupés par le changement. Nous faisons tous face à des situations ou des circonstances que nous aimerions changer, ou alors que nous aimerions que Dieu change. Alors il y a ces circonstances qui sont extérieures à nous, et souvent difficiles, compliquées. Et ces circonstances peuvent être liées à notre santé, une situation compliquée dans notre travail, dans notre famille, parmi nos voisins, dans l'Église. Des choses peut-être aussi que nous avons subies dans le courant de nos vies et qui nous impactent encore aujourd'hui. Et puis, il y a ces choses qui sont intérieures à nous. Nos propres problèmes de caractère auxquels on fait face chaque jour. La colère, peut-être un excès d'anxiété, l'amertume, la convoitise, une addiction à quelque chose. Et on pourrait compléter cette liste. Devant tout cela, devant ces circonstances compliquées, nous nous sentons bien souvent seuls et démunis. J'aimerais ce matin qu'on lise ensemble un passage qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs. Je scrute le tréfonds de l'être. Pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Le prophète Jérémie fait face à des circonstances extérieures qui sont douloureuses. En fait, à ce moment-là, la moitié du royaume de David est déjà tombée. Il ne reste plus que le royaume de Juda, mais le prophète Jérémie doit annoncer au peuple de la part de Dieu que Jérusalem va aussi tomber. Mais dans ce contexte, dans ces circonstances extérieures et difficiles, voici le regard que Dieu porte sur Juda et dont il est question un petit peu plus tôt dans ce passage au verset 1. Le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur. Le problème de Judas et de tout être humain vient de nos propres cœurs, marqués par le péché. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu va donner deux images au prophète Jérémie. Cette première image, c'est l'image d'un buisson épineux. Dans d'autres versions, il est question peut-être, vous l'aurez dans votre Bible, d'un genévrier qui se trouve au milieu d'un désert aride, un désert sec, un endroit inhabité. Quelles sont les circonstances extérieures à ce buisson épineux ? Il est question donc de soleil, il est question d'une chaleur intense, une chaleur accablante. Et dans ces circonstances, notre buisson épineux produit des épines. En fait, c'est à la fois dans sa nature de buisson épineux, c'est sa nature qui fait qu'il produit des épines, mais c'est aussi lié à ces circonstances extérieures, à cette chaleur intense. J'ai lu un article sur le rôle que jouent les épines sur un arbre en plein désert. Elles servent à capter la moindre trace d'humidité dans l'air, mais aussi à évacuer un petit peu de cette chaleur qui rayonne. Alors, quel est le sens de cette image ? Verset 5, « Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force. » Dieu décrit ici, au prophète Jérémie, la situation de l'être humain. Ma situation, quand je plonge mes racines en moi-même, que je cherche en moi, au fond de moi, les ressources, quand je m'appuie sur des moyens humains, quand je compte sur mes propres forces plutôt que sur Dieu lui-même. À ce moment-là, je produis des épines qui piquent, qui peuvent heurter les autres et aussi me faire mal à moi-même. Sur le fond, et je pense que vous serez d'accord avec moi, j'aimerais tellement enlever les circonstances. J'aimerais tellement que cette chaleur intense disparaisse de ma vie. Mais en fait, tout ce que j'arrive à faire, c'est produire des épines qui révèlent une chose, ce qu'il y a dans mon cœur, ce que je suis, c'est-à-dire ce buisson épineux. Et ces circonstances, cette chaleur accablante dont j'aimerais tellement me débarrasser, mais que Dieu permet pourtant dans ma vie, agissent comme un révélateur de ce qu'il y a au fond de mon cœur, c'est-à-dire les racines, et qui se manifeste aux yeux des autres et aux miens au travers de ma conduite, de mon comportement, qui peut être blessant envers les autres et envers moi-même. Ce sont les épines. Alors, quelques exemples de situations. J'ai essayé de choisir des prénoms, et j'espère que personne dans la salle ne s'appelle comme ça. Alex est surchargé de problèmes conjugaux et familiaux. Il a deux jeunes enfants. Bien qu'il fasse tout pour donner l'apparence d'un chef de famille comblé, il éprouve de plus en plus de difficultés à faire face à sa situation familiale. Et il se réfugie dans son travail. Étant lui-même chef d'entreprise, il justifie son absence de l'aube jusque tard le soir pour éviter l'atmosphère tendue qui règne à la maison. Quelle est la chaleur d'Alex ? Les problèmes familiaux ? Les circonstances tendues à la maison ? Quelles sont les épines qu'Alex produit ? La fuite, s'isoler, trouver un échappatoire dans son travail. Deuxième cas, le responsable hiérarchique, froid et méprisant de Tom, lui a rendu la vie difficile au travail. sa propre colère et son attitude rebelle ont envenimé la situation. Mais quand il songe à ses problèmes, Tom en rejette toute la responsabilité sur son supérieur, ce qui ne fait que compliquer les choses. Quelle est la chaleur de Tom ? Un responsable froid et méprisant. Quelles sont les épines que produit Tom ? La colère, la rébellion, le rejet de tous les torts sur son responsable. Troisième situation, troisième cas, c'est ma propre réalité, notre propre réalité peut-être, en tant que parent. Nous arrivons, en tout cas avec Priscille, ça se produit souvent, à la fin d'une longue journée de travail. On aspire à un moment de calme. Et alors qu'on se pose sur le canapé, soudain, une nouvelle dispute éclate entre nos enfants à l'étage. Voilà la chaleur qui se met à rayonner soudainement. Et comment vous dire qu'au moment où nous montons les escaliers, vous pouvez imaginer les épines de nos cœurs qui vont s'exprimer. Notre réaction et notre comportement seront à ce moment-là loin d'être constructifs et élogieux. Nos enfants et la manière dont on va agir révèlent en réalité ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Mais notre texte ne s'arrête pas à ce genévrier, ce buisson épineux. Dieu révèle une deuxième image à Jérémie. Versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. Et il ne cesse pas de produire du fruit. » Quelles sont les circonstances de cet arbre fruitier ? Est-ce qu'elles sont différentes du buisson épineux ? Non, elles sont identiques. Cet arbre fruitier se trouve sous le même soleil, sous la même chaleur. Il fait face à la même sécheresse. Nos prières régulières pour que Dieu change nos circonstances sont légitimes. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut le faire. Mais pourtant, il ne va pas toujours le faire. D'ailleurs, il est celui qui permet ces circonstances. Et bien souvent, ça nous dépasse. En fait, pour changer réellement, il ne faut pas que ce soit les circonstances qui changent, mais plutôt nos cœurs. Nous pensons souvent que si les circonstances changeaient, si mon conjoint agissait différemment, si mes enfants obéissaient un petit peu plus, si mon chef se comportait autrement avec moi, alors je ne serais pas ou je n'agirais pas ainsi. Pourtant, la réalité, c'est qu'au fond, je suis ce buisson qui produit des épines, que je sois sous le soleil ou sous une pluie de bénédictions. Ce qui fait la différence entre ce buisson épineux et cet arbre fruitier, en fait, ce sont les racines. Les circonstances sont les mêmes, mais les racines de l'arbre fruitier ne sont pas plongées dans ses propres ressources, dans des solutions humaines, mais dans un courant d'eau qui lui permet de porter du fruit en toute saison. Ce ruisseau, cette eau vive dont il est question ici, nous renvoie aux paroles de Jésus face à la Samaritaine dans l'évangile de Jean, où Jésus affirme qu'il est cette source d'eau vive qui donne la vie éternelle. Cette eau que Dieu révèle à Jérémie est évidemment le Seigneur Jésus lui-même et son esprit qui est donné à tous ceux qui placent leur foi en lui pour transformer leur cœur, pour transformer leur vie. Et en fait, ce tableau avec ces deux images représente simplement le tableau de nos vies, de ma vie. Je peux tantôt agir comme ce buisson épineux qui compte sur mes propres forces, qui me débat avec mes épines, que j'arrive même peut-être parfois à faire disparaître pendant un temps, mais qui finiront par repousser. Mais je peux aussi ressembler à cet arbre fruitier en réalisant combien mon cœur est tortueux plus que toute autre chose. Combien mon cœur est incurable, verset 9, et combien il a besoin d'être transformé encore et encore par l'Évangile. Je ne peux pas changer moi-même le problème de mon cœur que la Bible appelle péché. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Je suis donc encouragé à plonger mes racines, non pas dans cette confiance en moi-même ou dans mes propres forces, mais en Dieu, à qui revient tout le mérite du changement qu'il va produire dans mon cœur par son esprit. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous ne sommes pas condamnés à produire des épines, mais nous pouvons devenir ce que nous sommes déjà en Christ, c'est-à-dire cet arbre fruitier, en nous laissant transformer intérieurement par le Saint-Esprit, qui agit en nous parce que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Il nous donne la capacité de vivre une vie nouvelle. Il place des désirs nouveaux dans nos cœurs et il peut remplacer nos épines par des fruits. Le changement commence donc par reconnaître, par identifier nos mauvais traits de caractère, nos mauvaises habitudes, pour les amener à la lumière de Christ. Puis, en demandant au Seigneur de nous changer, de transformer nos cœurs. Le Saint-Esprit lutte contre le péché qui est en nous. Grâce à lui, même sous la chaleur accablante des épreuves et des tentations, nous pouvons désormais dire non à nos réactions malsaines, aux désirs effrénés de nos cœurs et porter du fruit pour Dieu. Je reviens à nos situations de tout à l'heure. Pour Alex, il y a de l'espoir. Le début du changement consiste à reconnaître que la fuite dans son travail n'est pas une solution. Puis c'est implorer le secours du Seigneur pour qu'il l'éclaire sur l'état de son cœur, sur ce qui est à la source de ce comportement et qui lui permette, par la puissance de son esprit, de porter du fruit dans sa relation avec son épouse et avec ses enfants. Pour Tom aussi, il y a de l'espoir. Le début du changement consiste à reconnaître ses propres réactions épineuses, que sont sa colère, sa rébellion et son refus de reconnaître ses propres torts. Puis demander à Dieu de changer son cœur et lui permettre d'agir d'une manière qui l'honore, même si son chef reste froid et méprisant. Enfin, dans nos vies de parents, mais c'est valable dans toutes nos relations, de couple, d'amis, de voisins, de travail, de famille. Dans nos vies, trop souvent, nous agissons sous l'effet de nos émotions, comme la colère, par exemple. À ce moment-là, notre seul espoir est de nous rappeler combien nous avons besoin du secours du Seigneur pour qu'il produise son fruit à l'instant même où nous allons vers nos enfants qui se disputent, ou vers notre ami qui nous a fait une remarque désobligeante, ou vers le médecin peut-être qui vient de rendre un diagnostic difficile à attendre. J'aimerais terminer et nous poser quelques questions. Quelle est votre chaleur ce matin? Quelles sont vos circonstances? Faites-vous face à un problème de santé, à un conflit familial, à des ennuis professionnels, à des voisins désagréables, à des personnes qui vous critiquent. Chacun peut compléter cette liste avec son propre soleil, sa propre chaleur qui rayonne en ce moment dans sa vie. Quelles sont vos épines ? Qu'y a-t-il au fond de vos cœurs qui produit ces épines ? Quelles sont vos pensées, vos paroles, vos attitudes, vos actes qui se manifestent sous cette chaleur parfois ardente dans vos vies et qui reflètent ce qu'il y a dans vos cœurs ? Avez-vous identifié ces épines ? En avez-vous parlé à Dieu ? Lui avez-vous demandé qu'il change ces choses dans votre vie ? Qu'il change ce trait de caractère, ce tempérament, cette mauvaise habitude ? Autre question, où sont plongées vos racines ? Où puisez-vous vos forces ? On l'a dit trop souvent, nous nous appuyons sur notre expérience, sur nos propres ressources. Nous avançons seuls en pensant pouvoir gérer. Et nous oublions que c'est en Dieu que nos besoins peuvent être pleinement comblés, que c'est lui seul qui est notre secours. Alors à l'approche de l'été, c'est à nouveau un encouragement pour chacun de nous à cultiver notre intimité avec Dieu, au travers des moyens dont Dieu se sert pour déverser ses grâces dans nos vies et produire cette transformation. Parmi ces moyens, la lecture, la méditation de sa parole. Prenons du temps régulièrement afin de nourrir nos cœurs de ces vérités qu'elles contiennent. Peut-être si vous avez du mal avec la lecture, et ça arrive, ce n'est pas un souci, mais il y a d'autres moyens. On peut écouter aussi la Bible en audio. Un autre moyen dont Dieu déverse grâce dans nos vies pour notre transformation, c'est la prière. Cette prière qui manifeste notre dépendance à Dieu et à son esprit pour toute chose. Ces moments de prière planifiés, on a vu cette année, des moments de prière en église, mais aussi des moments de prière spontanés dans la journée. Et peut-être que c'est la première démarche à faire quand on se lève de ce canapé pour aller vers nos enfants. Crier au Seigneur, dire « Seigneur, donne-moi d'agir comme toi tu veux que j'agisse. » Et puis un troisième moyen, une vie d'église active, entourée de frères et sœurs qui sont aussi en cours de transformation. C'est le contexte, l'Église, que Dieu a prévu pour favoriser notre croissance et notre transformation à la ressemblance de Christ. Enfin, cette période de l'été est peut-être aussi un moment propice pour réfléchir et prier peut-être que le Seigneur vous mette à cœur une personne dans l'Église. Alors si vous êtes une femme, priez pour que ce soit une femme. Si vous êtes un homme, priez pour que ce soit un homme. Avec qui vous aurez envie de prendre régulièrement du temps pour lire la Bible ensemble et pour prier ensemble, pour vous encourager dans votre vie de disciple de Jésus, dans votre marche avec le Seigneur. Une personne de confiance avec qui vous pourriez partager et prier pour ces domaines de votre cœur où vous avez besoin que le Seigneur agisse et qu'il vienne transformer par la puissance de son esprit. On appelle ça dans l'Église des groupes de croissance. Il y a des groupes qui existent, il y a des personnes, par deux, par trois, qui se rencontrent régulièrement, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et c'est vraiment un moyen aussi de grâce dont Dieu se sert dans nos vies pour nous former, pour nous transformer toujours plus à son image. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous révèle qui tu es, mais elle est aussi un miroir sur nos propres cœurs, sur nos propres vies. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et qu'on a pu célébrer ce matin. Merci pour cette croix. Merci parce que tu as tout accompli pour nous. Et si nous avons placé notre foi, notre confiance en toi, Seigneur, eh bien ce matin, tu as fait de nous en Jésus-Christ cet arbre fruitier. Alors oui, il nous arrive encore bien souvent de produire des épines, mais par ta grâce, par ta puissance, Seigneur, tu nous rends capables aujourd'hui, grâce à ton esprit qui habite en nous, tu nous rends capables de produire ces pensées, ces paroles, ces actes qui vont t'honorer, qui vont te rendre gloire et dont tu nous parles dans ta parole. Alors Seigneur, que tu produis cette œuvre de transformation. Merci parce que c'est le travail de toute une vie et on n'atteindra pas cette perfection sur cette terre si ce n'est quand Jésus reviendra ou quand on te rejoindra à notre départ physique de cette terre. Merci pour cette œuvre que tu produis en nous et je te prie que tu poursuives cette œuvre et qu'on soit encouragé ce matin encore à renouveler cette dépendance à toi dans nos vies, à nous nourrir de ta parole, à cultiver cette intimité avec toi par la prière, à grandir avec toi aussi au travers des enseignements qu'on reçoit dans l'Église, mais aussi au travers de ce qu'on vit avec chacun de nos frères et sœurs. Merci à toi, Seigneur Jésus. Amen.